Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Lectures en liberté avec la suite du roman de Michael Dowell, Blackwater. En vérité, c'était exactement ce qu'Oscar était en train de faire, d'une certaine manière, au moment où Elinor servait des petits pois à Grace. Mademoiselle Elinor, vous savez quoi ? Quoi donc ? Je pensais à Zadie. Vous allez épuiser cette pauvre fille et la faire courir dans tous les sens, coupa James en riant. La présence d'Elinor et celle d'Oscar presque tous les soirs lui procurait le sentiment d'avoir enfin une famille. C'est aussi ce à quoi je pensais, poursuivit Oscar. Zadie est plus fortunée que n'importe quelle autre petite fille à Perdido, blanche ou noire, dit Elinor en se redressant pour couper son jambon. Chaque fois que vous la voyez, vous lui donnez une pièce, et moi aussi. Mais ses jambes ne la portent plus. Que veux-tu qu'Elinor fasse pour soulager les pauvres jambes de Zadie ? Demanda James. Zadie, qui écoutait la conversation depuis la cuisine, apparut dans l'embrasure et souleva sa jupe afin de montrer que ses jambes se portaient à merveille. Madame Digman ne m'autorise pas à faire installer un téléphone dans la salle de classe, dit Elinor. Puisque vous continuez à m'envoyer des messages, il faut bien que quelqu'un me les transmette. Mes jambes vont très bien, commença Zadie. Mais Roxy la saisit par la jupe et la tira dans la cuisine. Les blancs n'aiment pas voir des gamines noires quand ils mangent, la gronda Roxy, à moins qu'elle n'apporte un plat. Ajouta-t-elle en fermant la porte. Et Zadie, pour un temps, n'entendit plus rien. « Et si l'on se mariait ?» suggéra Oscar. « Comme ça, je n'aurai plus à vous envoyer de mots. » Elinor releva la tête. Puis elle regarda James Casquet. « Monsieur James, dit-elle, je crois qu'Oscar est en train de me demander en mariage. Et vous allez accepter, demanda James, le visage illuminé de joie. Qu'en penses-tu, Grace ? Tu crois que je devrais épouser ton cousin ? Non ! S'écria l'enfant, le désespoir peint sur son visage. Pourquoi ? Je ne veux pas que tu partes. « Où veux-tu que j'aille ?» dit Elinor, avant de regarder Oscar. « Oscar, si je vous épouse, vous m'emmèneriez loin ?»« Bon, jamais je ne quitterai Perdido, mademoiselle Elinor. »« Loin de cette maison, je voulais dire, où habiterions-nous ?»« Je ne sais pas, » répondit Oscar au bout d'un moment. « L'idée m'est venue à l'instant. » Pendant que James racontait ne pas avoir reçu de lettre de Geneviève. J'ai pensé que je devais moi aussi me marier, puis j'ai levé la tête et vous étiez là, célibataire comme moi. Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir en détail, je n'ai pas encore acheté d'alliance. Mademoiselle Elinor, donc, ce n'est pas la peine de me demander de vous la montrer, j'en serais incapable même si vous vous mettiez un couteau sur la gorge. » Grace saisit son couteau et l'agita comme pour suggérer à Elinor de mettre la menace à exécution. Son père formula les craintes de la petite fille. « Oscar, dit-il, je ne crois pas qu'il soit juste de nous ôter mademoiselle Elinor à Grace et à moi. » Oscar se tourna afin de regarder dehors et scruta la cuisine allumée de sa propre maison. Il vit sa mère qui le fixait debout à la fenêtre. « Quand j'y pense, je ne crois pas que maman va aimer ça non plus. » « Oscar, dit Elinor, Madame Marilov n'aime rien de ce qui nous concerne, vous et moi. Alors non, elle ne se réjouira pas de vous voir me conduire à l'hôtel. » Elinor, lança James, vous n'avez jamais assisté à un mariage. L'époux se tient devant l'hôtel et ce sont la mariée et son père qui descendent l'allée. Comme votre père est mort, je suppose que je devrais prendre sa place. » « Monsieur James, voyons, je n'ai pas encore dit oui. »« Ne dis pas oui, cria Grace. Moi, je veux t'épouser. » »« Ma chérie, dit Elinor en souriant à l'enfant, si les filles pouvaient épouser les filles, alors je me marierais avec toi. Mais les filles doivent épouser des garçons. » Oscar sourit et fit un signe à sa mère. Marilov disparut derrière la fenêtre. « Oscar, reprit Elinor, puisque je ne suis pas autorisé à épouser Grace, je suppose qu'il faudra que vous et moi on se marie. Mais je préfère être honnête. Si j'avais pu, j'aurais choisi Grace. » Avec une moue, la petite fille posa la tête sur ses poings et garda les yeux baissés sur son assiette. Plus tard, ce soir-là, Oscar apprit à Sister qu'il se fiançait. Et Sister, à son tour, confia la nouvelle à sa mère. Marilov claqua la porte de sa chambre dont elle ne ressortit qu'au bout de 3 jours, prétextant une obscure indisposition. Sister dut organiser seule le repas de Thanksgiving et inviter elle-même James, Grace et Elinor. Le matin des vacances, Marilov paraissait lasse et triste, comme si elle avait non seulement appris que son cousin préféré était mort, mais qu'il ne lui avait rien légué. Elle ouvrit la porte à James, Grace et Elinor. C'était la première fois qu'Elinor Damert posait un pied dans sa maison. « Sister m'a annoncé qu'Oscar et vous alliez vous marier, dit-elle. »« Oscar ne t'a rien dit ?» s'étonna James. « Sister me l'a annoncé, » répéta Marilov. « Sister a raison, » dit Elinor sans se démonter. Oscar et moi allons nous marier. Il craignait d'épuiser Zadie à lui faire transmettre autant de messages. Les couples mariés ne s'écrivent pas. Zadie, rétorqua Marilov, a peut-être mieux à faire que de jouer les messagères. Elle a peut-être du travail qui l'attend à la maison. Après tout, je me demande pourquoi on la paie. Elle serait peut-être plus utile sur le dos de la vieille mule de Créola Sap. Lorsqu'elle était bouleversée, Marilov avait tendance à parler avec emphase. Elinor Damert ne laissa paraître aucun signe de triomphe au cours du repas. Mais elle ne scia pas non plus sous le regard inquisiteur de Marilov. Elle semblait parfaitement à son aise, riant même aux éclats à une plaisanterie que James raconta à Sister. Il y eut 2 gâteaux pour le dessert, l'un au chocolat et l'autre à la noix de coco, et 3 tartes, à la crème, aux noix de pécan et une dernière au raisin. Sister et Elinor les découpèrent et firent le service. Sister m'a dit qu'aucune date n'avait encore été fixée pour le mariage, dit Marilov une fois servi. C'est exact, répondit James, tu comprends, on voulait d'abord en discuter avec toi. « C'est à la famille d'Elinor d'en décider. »« Ma famille est morte, » fit Elinor. Tout le monde à table la dévisagea avec consternation. En dehors de James, personne n'était au courant et lui-même avait comme oublié. Ils étaient persuadés qu'elle avait encore des parents en vie à Wade. « Tous ?» demanda Sister. « Il ne reste que moi. » « Dans ce cas, maman, on va avoir besoin de ton aide. »« La première chose à faire, dit Marilov avec empressement, c'est de fixer une date. »« D'accord, » acquiesça Oscar. Au cours du repas, Marilov avait adressé plusieurs remarques à Elinor aucune à son fils. Oscar lui avait même posé une question qu'elle avait faim de ne pas entendre. « Dans un an, jour pour jour, » poursuivit Marie-Love. Elinor se figea derrière Marie-Love, une assiette avec une part de tarte destinée à Grace à la main, qui tentait en vain de l'attraper. Elle fixa Oscar intensément, sans dire un mot. « Maman, mais c'est dans une éternité !» se récria Oscar. « Elinor et moi pensions nous marier en février, et toi tu parles ?» Mademoiselle Elinor, ni vous ni Oscar n'avez d'endroit où habiter, n'est-ce pas ? Le coupa Marie-Love. Sortant finalement de sa stupeur, Elinor tendit son assiette à la petite fille. « Non, madame, répondit-elle, pas encore, mais je crois que nous n'aurons aucun mal à trouver quelque chose. » « Rien de convenable, » dit Marie-Love en regardant droit devant elle, « ni quelque chose qui vous irait vraiment. Si vous vous mariez en février, il faudra que vous habitiez ici avec Sister et moi. » « Non !» cria Grace. « Elinor a dit « Silence, Grace !» siffla Sister à voix basse. « Je leur ai proposé de vivre chez moi, » dit James. « Tu as moins de place que moi, » rétorqua Marie-Love. « Et puis... « Ça ne se fait pas pour des jeunes mariés de partager leur espace. Ils ont besoin d'être seuls, » ajouta-t-elle d'un ton glacial qui contrastait avec ses propos. « Maman, je ne vois pas en quoi attendre un an résoudra le problème, » dit Oscar. « Il faudra quand même qu'on cherche un endroit où vivre. »« Non, » répondit sèchement Marie-Love en regardant son fils pour la première fois depuis le début du repas. Oscar rougit et détourna les yeux. Elinor avait repris sa place à table et observait son futur époux en silence. « J'ai décidé quel cadeau de mariage je vais vous offrir. »« Quoi ? » demanda Oscar en levant la tête. « Je vais vous faire construire une maison juste à côté de la nôtre, entre celle-ci et la limite de la ville, » énonça-t-elle rapidement. Et avant même que quiconque puisse exprimer sa surprise, elle ajouta « Mais même si les travaux commençaient demain, et ça ne sera pas le cas parce que je n'en ai encore discuté avec personne, ils ne seront pas achevés avant avril ou mai. Et puis il faudra ensuite meubler et décorer la maison. Sister et moi allons nous en occuper. Mademoiselle Elinor, vous n'aurez absolument rien à faire. » Elinor gardait le silence. Lorsque la maison sera finie, nous pourrons organiser le mariage, poursuivit Marie-Love. Ça prendra encore 2 ou 3 mois. Oscar est mon seul fils, je veux que tout soit parfait. Qu'en penses-tu, Oscar ? Demanda-t-elle, sur un ton qui ne souffrait aucune contestation. Oscar se tourna vers Elinor d'Amert. Celle-ci ne dit rien, ne s'y la même pas, ni ne changea d'expression. Elle ne livra aucun indice quant à ce qu'elle pensait qu'il devait répondre. En vérité, seule son ignorance masculine empêchait Oscar de comprendre qu'aucun indice était en soi un indice suffisant. « Maman, est-ce qu'on doit vraiment attendre un an ? » demanda-t-il enfin. « Oui. » Oscar acquiesça en silence. « Mademoiselle Elinor ? » dit Marie-Love. « C'est Oscar qui décide, » répondit-elle en portant à ses lèvres une bouchée de gâteau à la noix de coco.
Je n'ai rien d'autre à faire, mais rien ne vient. J'attends le nez en l'air, je ne tords pas les mains. On gagne ou bien l'on perd, mais c'est plutôt rien. Je m'en irai tout à l'heure, je reviendrai demain. On ne sort pas du désert, on tourne sans fin. Le jour tombé, l'enfer n'est plus aussi lointain. Mais je ne suis pas amer, toujours on en revient. Et attends, mais rien. Et les larmes sont vaines, et c'est le même refrain. Et les blessures se ferment. Et attends, mais rien. Et les larmes sont vaines, et c'est le même refrain. Passante mes mains, c'est l'heure de la prière, mais rien ne vient. On finit par s'y faire avec un peu d'entrain. On sait bien que nos misères ne prennent jamais fin, jamais fin. Se ferme et attend rien, et les larmes sont vaines, et c'est le même refrain. Et les blessures se ferment et attend rien.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Blackwater, Michael McDowell. Les représailles d'Oscar. Bien que les hivers soient doux à Perdido, la dernière semaine de janvier était presque toujours glaciale. Inévitablement, une vieille noire habitant à la campagne une bicoque au mur en couche de papier journal succombait. Son corps n'étant découvert que par ses petits-enfants venus récolter ses dernières noix de pécan. Ces quelques jours étaient l'occasion pour les femmes et les filles des propriétaires des scieries d'exhiber leurs manteaux de fourrure. Partout, les canalisations cédaient et les gens restaient assis dans la cuisine près du poêle. Mais à l'exception de cette terrible semaine, il était possible de profiter de l'extérieur toute l'année, et la météo n'empêcha jamais Elinor de se rendre à l'école dans le petit canot vert de Bray. La rumeur voulait que, tels les poissons qui y nageaient, elle ne ressentit pas le froid de la rivière. Au cours du premier hiver qu'Elinor passa à Perdido, celui de l'année 1920, La ville entière fut mise au courant de l'arrangement entre Marilov et Oscar. Un pacte dont chacun perçut bien la véritable essence. En échange du report d'une année du mariage d'Oscar, période durant laquelle Marilov espérait probablement que le couple rompe leurs fiançailles, elle allait faire construire à son fils une belle demeure proche de la sienne. En supposant que son souhait se réalise et qu'Elinor retourne d'où elle venait ou que ce puisse être, Marilov garderait son fils pour elle et son seul problème serait de savoir quoi faire de la nouvelle maison. Peut-être, se plaisait à conjecturer ce qui aimait se perdre en hypothèse, y emménagerait-elle. Personne ne sut jamais ce qu'Elinor pensait de cet arrangement. Elle ne se plaignit pas. Même lorsque Noël puis le nouvel an passèrent et que les travaux n'avaient toujours pas commencé, il n'y avait pas de plan d'architecte à examiner, pas de contrat de maîtrise d'œuvre à faire valoir pour l'obtention d'un permis de construire, pas de cordes ou de piquets de chantier plantés dans la terre sableuse. Marilov laissa filer l'hiver et chaque fois qu'Oscar évoquait le sujet, elle s'exclamait « Oh Oscar, ce sera la plus belle maison de toute la ville !» avant de marmonner une excuse quelconque et de quitter la pièce. Au printemps 1920, les pluies revinrent, mais moins sévères que celles de l'année précédente. Tout le monde était nerveux et passait son temps à scruter les rivières avec appréhension, ce qui, compte tenu de la géographie de Perdido, arrivait fréquemment. Aussi les habitants prirent-ils l'habitude de demander à Elinor son avis. Après tout, elle naviguait tous les jours sur la Perdido, y compris les samedis et dimanches, lorsqu'elle se rendait à l'église en barque. Oscar, paresseusement assis à la proue, l'air visiblement satisfait. À ceux qui, avant l'office, lui faisaient remarquer la difficulté de la tâche pour sa future femme, Oscar se contentait de répondre « Seigneur, vous pensez vraiment que j'ai assez de force pour traverser l'embouchure à la rame? J'ai même pensé à embaucher Elinor pour remonter la Blackwater et abattre quelques cyprès pour moi. Elle a répondu qu'elle le ferait volontiers si je payais quelqu'un pour l'aider à ramener le chargement en ville. » Elinor, côtoyant la rivière de plus près que n'importe qui, elle saurait si une nouvelle crue se préparait. La jeune femme était rassurante. Non, il n'y aurait pas d'inondation cette année. Comment le savait-elle? À la façon dont les branches flottaient dans l'eau et au type de branches qui dérivaient, à la vitesse de rotation du tourbillon et aux animaux morts qui y étaient aspirés, à la couleur de la boue. Et personne n'avait jamais pensé que la boue de Perdido puisse changer de couleur, ce qu'Elinor leur avait pourtant affirmé. Aux fluctuations des berges sablonneuses et des courants et à la quantité d'argile qui s'échouait sur le rivage. Des fluctuations qu'aucun habitant de Perdido ne pouvait voir, encore moins interpréter. Mais parce que Elinor en était convaincue, tous se persuadèrent de pouvoir échapper à une crue cette année-là. Cela ne signifiait pas pour autant qu'il ne pleuvrait pas. Au contraire, durant la floraison des azalées de fin février à mars, il n'y eut que de légères averses, si bien que leurs fleurs moururent de belles morts, toujours sur leurs branches. Lorsque ce fut au tour des roses d'éclore, la pluie devenue drue gorgea la terre au pied des plants. S'il pleuvait durant les heures de classe, Elinor demandait aux enfants d'ouvrir grand les fenêtres. « Respirez-moi ça !» les encourageait-elle, et les enfants emplissaient leurs poumons de l'air gorgé d'humidité. Si elle était à la maison, elle installait son siège tout au bord du porche. Flanquée de chaque côté de Zadie et Grace, elle regardait comme hypnotiser le rideau de pluie tombé du toit, éclabousser les marches et la balustrade, mouiller leurs pieds et l'ourlet de leurs robes. Les fillettes se seraient volontiers abritées, mais Elinor les rassurait. « Ça séchera. Ne vous inquiétez pas. Rien ne sèche plus vite que l'eau de pluie. Il n'y a pas plus doux comme eau. » Puis, se penchant en avant, elle recueillait dans ses mains en coupe les gouttes qui cascadaient du toit et les tendait aux jeunes filles afin qu'elles les lappent, telles deux chiots obéissants. Oscar se sentait non seulement coupable parce qu'il avait cédé à sa mère, mais aussi parce que Elinor refusait de lui dire ce qu'il avait fait de travers. Il continua à lui faire la cour comme avant, à une exception près. Chaque fois qu'il évoquait le cadeau de mariage de Marie-Love ou la date de la cérémonie, Elinor gardait un silence obstiné et ne répondait à ses questions que d'un oui ou d'un non maussade. Oscar était déterminé à lui montrer qu'il n'était pas faible et ne craignait pas d'affronter sa mère. Certes, il avait conclu un pacte et était tenu de le respecter, mais ce serait le dernier. Le mariage ne serait pas repoussé d'une semaine supplémentaire. Il y avait aussi la grande question de la maison. « Maman, tu retardes les travaux exprès, » dit-il un jour. « Bien sûr que non. Si, tu le fais parce que tu ne veux pas qu'Elinor et moi on se marie. » Marie-Laure ne répondit rien. Contredire une telle accusation était un mensonge qu'elle ne pouvait se résoudre à proférer. « Je te préviens, maman, » poursuivit-il, « Elinor et moi nous marierons le samedi après Thanksgiving, que la maison soit prête ou non. S'il n'y a pas de maison, on vivra ailleurs. Et ailleurs, ce pourra être perdido ou pas. » Les paroles d'Oscar convainquirent Marie-Love. Elle savait que son fils mettrait sa menace à exécution, de même qu'elle savait qu'il ne romprait pas le pacte qu'ils avaient conclu. Malgré le froid, elle se rendit à Mobile dès le lendemain pour parler à des architectes. L'un d'eux vint à Perdido le lundi suivant et, après avoir examiné le terrain, discuta avec Marie-Love du type d'habitation qu'elle souhaitait faire construire. Le chantier commença la deuxième semaine de mars. Il fut décidé que la maison serait érigée à côté de celle de Marie-Love, au bout de l'étendue sableuse aux abords de la ville. Toutes les fenêtres, côté est, donneraient directement sur une forêt de pins et de pruches de l'est, qui délimitait la propriété des Casquets. Elle serait plus éloignée de la route que celle de Marie-Love, mais puisque la Perdido s'incurvait au nord à cet endroit, les deux demeures seraient à égale distance du cours d'eau. Pour commencer le chantier, il fallut d'abord abattre 6 des arbres d'Elinor. Les chênes d'eau ayant atteint une croissance suffisante, ils furent transportés à la scierie et découpés en planches étroites qui serviraient plus tard à construire une treille à l'arrière de la maison. L'abattage de ces arbres fut l'unique consolation de Marie-Love dans cette affaire. C'est ainsi que débuta le chantier, à 60 mètres à peine du porche de James où Elinor aimait s'asseoir. Si elle s'était mise debout et penchée légèrement en avant, elle aurait vu s'élever sa future demeure. Mais Elinor refusait de se donner cette peine. À ses pieds, Zadie lui disait « Mademoiselle Elinor, pourquoi vous n'allez pas voir votre nouvelle maison ?»«
C'est Madame Marie-Love qui l'a fait construire. »«
Mais elle est pour toi !» s'écria Grace. La petite fille ne s'était habituée que récemment à l'idée du départ d'Elinor. En secret, elle avait échafaudé un plan pour s'enfuir de chez elle le lendemain du mariage et envoyer une lettre avertissant qu'elle reviendrait à la seule condition qu'Elinor l'adopte.
Lorsque cette maison sera finie et qu'elle nous appartiendra, à Oscar et à moi, poursuivit Elinor, nous aurons tout le loisir de découvrir à quoi elle ressemble.
Oscar savait que sa fiancée n'était pas allée voir la maison, même si au premier jour de mai, on pouvait accéder à l'étage. C'était la plus vaste et la plus belle de Perdido. Et Oscar se faisait une joie de la décrire à Elinor. Il en détaillait l'aménagement et dessinait des plans comme s'il s'agissait d'un caveau funéraire entièrement en marbre, érigé de l'autre côté du monde, et dont il doutait qu'elle puisse le voir un jour, plutôt que la maison toute proche qui leur était destinée.
Elinor l'écoutait patiemment, et lorsqu'il avait fini, répondait avec simplicité.
« Tout ça m'a l'air bien, Oscar. Je sais que vous brûlez d'impatience d'y habiter. » « Et vous alors ? Maman fait construire cette maison pour vous autant que pour moi. »
« Oh, je n'y penserai pas avant le samedi suivant Thanksgiving. » Après une énième discussion de ce genre, Oscar alla voir Sister.
« Sister, Elinor pense que je vais me dégonfler. Elle pense que je vais laisser maman me duper une nouvelle fois. Tu sais que je me suis fait avoir par maman, n'est-ce pas ?»«
Elinor est seulement en colère contre toi. Elle est déçue que tu n'aies pas été plus malin. »«
Je n'étais pas préparé, » se défendit Oscar. « Maman m'a tendu un piège. »
Les hommes sont censés être plus malins que les femmes.
La personne à Perdido ne m'a jamais dit ça, et puis je ne crois pas que ce soit ce que tu penses vraiment.
En effet, dit Sister après un silence, je n'y crois absolument pas.
Écoute-moi, ajouta-t-elle, sur un ton qu'il ne lui avait jamais entendu.
Il se trouvait dans la chambre de Sister, et sa sœur lui fit signe de s'asseoir, ce qu'il fit près de la fenêtre, d'où il pouvait voir la rivière, d'où il pouvait voir les chaînes d'eau.
Elle gagne du temps.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Je veux dire qu'elle attend de voir si tu vas agir comme il faut.
Sister, je ne comprends pas. Réfléchis un instant, fit-elle d'une voix exaspérée.
Si Elinor n'a encore parlé de rien, c'est parce qu'elle veut jouer franc jeu.
Franc jeu, répéta-t-il.
Oscar, tu ne crois pas que si Elinor avait insisté dès le début, elle et toi seriez déjà mariés. Tu ne comprends pas que la maison serait finie et que vous habiteriez dedans.
Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Michael McDowell, Blackwater, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.